Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ça y est, la Tunisie a enfin une équipe gouvernementale. Il y a 25 membres donc qui vont avoir comme premier ministre l'universitaire Najla Boudem. Il sera donc le cas de 25 personnes, dont 9 femmes. Quand on observe ce qu'est la composition de cette équipe gouvernementale, on note que 2 ministres seulement sont des rescapés de l'ancien exécutif. Il y a le ministre des Affaires étrangères et de l'Éducation. Pour ce qui est du reste, ce sont des têtes nouvelles. On verra comment ils vont procéder à leur prise de fonction, quelles seront les directives qui seront les siennes, sachant que nous avons un climat sur Tunis quelque peu détérioré. Il y a eu ce week-end des manifestations, même si le nombre exact de manifestants n'est pas connu. On peut estimer qu'il y a entre 5, 6 et 7 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour manifester leur inquiétude quant au processus politique en cours. Alors, on n'avait pas encore la formation gouvernementale un dimanche lorsqu'il y a eu les manifestations. Est-ce que la composition, le choix des noms qui a été retenu pour former le gouvernement tunisien, est-ce que c'est de nature à calmer la rue ou pas? On le saura certainement le week-end prochain. En tout cas, il y a d'ores et déjà beaucoup de commentaires politiques pour essayer d'évaluer dans quelle mesure cette équipe gouvernementale sera à la hauteur de ces défis socio-économiques qui sont les siens. Et signe du climat de tension actuellement en Tunisie, ce que l'on n'avait quasiment jamais vu en Tunisie, ce sont ces manifestations qui s'en sont pris hier des journalistes de la chaîne nationale Watinia. Certains ont été blessés, c'est le cas de notre confrère Ayman Haj Salem qui a été agressé physiquement et verbalement et empêché de faire son travail. Ce sont là des comportements que l'on n'a pas l'habitude de voir en Tunisie. Cela dit, aujourd'hui, le climat de tension qu'il y a entre les médias officiels, les médias gouvernementaux et puis la rue tunisienne. Malgré les initiatives qui ont été prises par le président français pour essayer d'apaiser les relations entre Paris et Alger, il y a eu ces déclarations du président Tebboune à l'occasion d'une interview dans laquelle il a été amené à dire que le ministère français de l'Intérieur proférait des « mensonges » entre guillemets, notamment sur la question de la liste de ces Algériens qui sont sur le territoire national français, qui ont commis des infractions et qui devraient être renvoyés au pays. À en croire le président algérien, il n'y a pas 7000 noms, comme cela a pu être évoqué précédemment par Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, mais Tebboune fait état de listes, de 3 listes de 94 cas d'Algériens. Il est précisé toujours, selon le responsable de l'exécutif algérien, que les mesures d'expulsion concernant des personnes qui ont été en lien avec des organisations terroristes ne reçoivent pas d'accueil favorable de la part des autorités algériennes. L'Algérie, avec ses départs massifs de gens qui fuient le pays, qui fuient le régime, il y a eu un accroissement significatif d'Algériens. Plus de 2200 d'entre eux sont arrivés en Espagne en l'espace de 3 semaines. Et pour en finir avec l'Algérie, on peut signaler que depuis hier, il y a eu la reprise des instructions judiciaires à l'encontre de l'ancien conseiller présidentiel, Saïd Bouteflika, ainsi que de l'ex-ministre de la justice Taïeb Louche, ainsi que d'autres personnalités importantes qui sont jugées pour abus de pouvoir, entrave à la justice ou encore outrage au tribunal. Aider la Libye dans son projet de maintenir des élections avec ce découplage qui a été décidé la semaine dernière, les présidentielles pour le 24 décembre et puis à la fin du mois de janvier 2022, une législative sur l'ensemble du territoire national libyen. Le porte-parole de l'Union européenne vient d'annoncer que l'Europe projette de donner 21 millions d'euros à la Libye pour que celle-ci puisse organiser ce scrutin de telle façon à ce qu'il ne soit pas discuté et discutable par les acteurs qui se présenteront quand la loi électorale aura été votée. Donc voilà, 21 millions d'euros qui vont être versés par l'Union européenne à la Libye pour que celle-ci puisse aller au bout de son processus électoral. C'est un coup dur pour l'Irak, pour la démocratie irakienne en devenir. Il y avait ces législatives anticipées ce week-end qui se voulaient être une réponse aux manifestations de contestation de ces dernières années. Tant d'Irakiens et d'Irakiennes sont descendus dans les rues, certains l'ayant même payé de leur vie ou de blessures qui porteront jusqu'à la fin de leur jour. Ils porteront les stigmates de cette violence politique. Ce rendez-vous électoral était important. Et bien malgré tout, l'enjeu qu'il pouvait exister, 41% seulement des Irakiens se sont déplacés. Ils sont allés aux urnes pour s'exprimer. Alors soyons encore prudents quant au résultat final de ce rendez-vous électoral. Il est vraisemblable qu'il n'y aura pas de grandes surprises, qu'on assistera surtout à une reconduction des rapports de force politique tels qu'ils existent aujourd'hui en Irak. Mais en tout cas, déception par rapport à cette faible mobilisation quand on la compare à ce qu'était l'engouement populaire pour réclamer un changement dans le pays. En fait, on se rend compte que ce scrutin tel qu'il était organisé, tel que les partis politiques s'en étaient emparés pour faire campagne, en fait, cela n'a pas convaincu les électeurs irakiens pour que ceux-ci se rendent aux urnes.
Brutal doxa, terreur terrorisante.
Notre escale du jour, c'est toujours l'Irak, mais avec cette affaire qui est liée au terrorisme et cette arrestation, c'est là un pur hasard du calendrier. Sami Jassim Mohamed Al-Joubari a été arrêté. C'est un membre important du groupe État islamique. En fait, il est plus connu sous le nom de Haji Hamid. Il a été un compagnon de la première heure de Baghdadi et c'est lui en 2014 qui occupait les fonctions entre guillemets de ministre des Finances. En tout cas, il était l'argentier, le grand argentier de l'organisation terroriste. Et donc, c'est quelqu'un qui est important parce que c'est un personnage historique et qui a vécu toutes les grandes phases de la vie du groupe État islamique. Lorsque il fait cette déclaration Baghdadi à la mosquée de Mossoul, donc nous sommes en 2014, nous sommes au mois d'août, jusqu'au moment où Palmyre tombe, là on est vraiment à l'apogée du contrôle territorial du groupe État islamique sur l'axe syro-irakien, et puis on va aller jusqu'en 2018-2019 avec la fin de la territorialisation. Alors ce que l'on peut dire de Haji Hamid, c'est que c'est vraiment l'homme qui a pensé, qui a organisé, qui a régulé les flux financiers qui ont été tout à fait importants parce qu'on se souvient que lorsque Mossoul tombe, eh bien Mossoul tombe avec les banques qui sont avec, donc il va y avoir des acquisitions tout à fait significatives d'argent, beaucoup de bénéfices vont être faits avec de la vente de pétrole qui va transiter dans la région. Alors il y a eu pas mal d'exagérations qui ont été faites sur le vol d'antiquités, les bénéfices qui en auraient été tirés. C'est vrai que les vols d'antiquités ont eu lieu et qu'effectivement, il y a des musées qui ont été pillés, mais les grosses sommes d'argent, en fait, sont venues à la fois donc, du trafic de contrebande et puis également sur l'industrie des checkpoints, hein, avec ces barrages routiers qui permettent de générer des bénéfices tout à fait conséquents, puisque chaque véhicule, camion, voiture ou autre, est rançonné. Donc, il est évident que, puisque Haji Hamid a été arrêté, il va certainement parler, raconter. Alors, les Américains connaissent parfaitement l'homme, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient mis un mandat sur sa tête, puisqu'ils savaient parfaitement qu'ils avaient affaire là à quelqu'un de tout à fait important dans le groupe État islamique. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on souhaitait l'entendre. Alors maintenant, pour ce qui est de l'avenir, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le groupe État islamique en Irak, qui reste très actif, hein, sur la Syrie, vraiment, le groupe État islamique est en baisse d'activité, mais sur l'Irak, il est toujours bel et bien présent. Quand vous arrêtez un homme qui est en charge des finances, c'est toujours là un coup dur pour l'organisation. Souvent, sur les chefs politiques, on se dit « mais qui va pouvoir prendre le relais ?» Sur les rotations à la tête des organigrammes politiques, c'est assez simple. En revanche, lui avait et a toujours la mémoire des opérations financières du groupe État islamique. Donc c'est vraiment un coup dur qui a été porté par les forces spéciales irakiennes à l'encontre du groupe État islamique.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.